Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons donc recevoir aujourd'hui mon collègue et ami, le docteur Mouloud Benhami. Mouloud est ingénieur de recherche au CNRS. C'est à l'origine un paléontologue qui, pour des tas de raisons, et de la faute essentiellement des paléontologues, est devenu paléo-magnéto-stratigraphe. Bon, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous saviez tous ce que c'était, donc on en reparlera tout à l'heure. On verra bien si dans trois quarts d'heure, vous savez mieux. Et vous allez voir que ces techniques sont des techniques qui sont extrêmement importantes et extrêmement utiles pour nous, les paléontologues. Alors, Mouloud est paléontologue aussi, mais en paléontologie, il s'est plus spécialisé vers les micro-mammifères et au sein des micro-mammifères, plus particulièrement vers les rongeurs. Voilà, donc vous savez à peu près tout de lui et c'est lui qui fait la conférence et pas moi. Mouloud, c'est à toi.
Merci. Merci Michel. Bonjour à tous. Bon, je vais vous parler un peu, enfin, c'est-à-dire de l'utilisation surtout de magnétisme des roches ou de paléomagnétisme dans le domaine de la paléontologie. Un peu d'historique concernant enfin, le magnétisme de la Terre. Donc, les Chinois ont découvert le magnétisme au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et la première boussole est apparue au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et le mot magnétisme, ou apostolat de magnète, est apparu 500 ans après Jésus-Christ. Et la boussole est apparue en Europe, à peu près il y a 1100 après Jésus-Christ. Ce n'est qu'entre le 6e et le 17e siècle qu'il y avait la création des premiers observatoires. Et parmi ces observatoires, enfin, un observatoire en Angleterre, conduit par Gilbert, et qui considère que la Terre est une sphère aimantée. Donc, ce physicien et médecin en même temps de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, au VIe siècle, considère que la Terre est une sphère aimantée et qu'il devient possible de calculer la direction et l'intensité du champ magnétique en tout point de la surface du globe. Donc, si on voit sur... C'est-à-dire, enfin, la configuration la plus simple du champ magnétique terrestre, ce qui signifie qu'on considère qu'il y a un barreau aimanté au centre de la Terre, enfin, c'est-à-dire le long de l'axe de la Terre, et qui génère les vecteurs ou les forces qui attirent les aiguilles de boussole. Par contre, l'axe, c'est-à-dire l'angle entre le pôle géomagnétique et le pôle géographique, c'est-à-dire l'axe de la Terre, il est de 11,8 degrés. Premièrement, quelques définitions concernant le champ magnétique. Le champ magnétique est un vecteur noté généralement H ou B, enfin dans la littérature. Il se caractérise par trois composantes, c'est-à-dire la composante selon l'axe X, Y et Z. Et ce vecteur se présente par trois paramètres, c'est-à-dire l'inclinaison, la déclinaison et l'intensité. L'inclinaison, c'est l'angle entre l'horizontale et le vecteur force. Et la déclinaison, c'est l'angle entre la composante horizontale de vecteur et le nord géographique. Comme application du champ magnétique, on a, avant même la découverte, enfin maintenant l'utilisation du GPS, avant, tout le monde utilise la boussole pour s'orienter et pour la navigation. Et dans le domaine des sciences de la Terre, en géodynamique, application à la géologie structurale et à la tectonique pour évaluer les déplacements des plaques les unes par rapport aux autres, recherche de leur position à un moment donné, le sens et la vitesse de leur déplacement. En ce qui concerne le climat, recherche et définition de la position de pôle, puisque, comme on l'avait vu tout à l'heure, il n'y a que 11 degrés entre le pôle nord, entre le nord géographique et le nord magnétique. Ça dérive au cours des temps géologiques et ses applications sur les ceintures climatiques. Et pour nous, les paléontologues, ou les gens qui s'intéressent à la paléontologie, c'est-à-dire on utilise ces caractéristiques ou ces propriétés de champ magnétique dans le domaine qu'on appelle la magnétostratigraphie, tout en utilisant la chronologie des inversions de champs magnétiques terrestres et aussi en archéomagnétisme, au lieu d'utiliser directement les inversions du champ magnétique en archéomagnétisme, on utilise ce qu'on appelle les variations, les courbes de variation séculaire. On va voir de quoi il s'agit. Le champ magnétique de la Terre subit quotidiennement des variations allant depuis une seconde, une heure, une année et des millions d'années. Là, je vous présente les enregistrements de variations des enregistrements dans l'observatoire de Chambon-la-Forêt. On voit que plus on augmente enfin la fenêtre d'observation, on voit toujours qu'il y a des variations de champ magnétique. Ça veut dire que ici, c'est l'intensité du champ qui est présentée et pas les directions. On voit que le champ, il varie continuellement. Et en Angleterre, enfin depuis 1000 ans jusqu'à 1975, on voit la dérive de pôle magnétique. C'est-à-dire, enfin, au cours des temps, le pôle ou les directions du champ magnétique, ils ne sont pas stables. Par exemple, ils passent, enfin, au niveau, ce qui concerne la déclinaison, il a subi une variation de 65 degrés. C'est-à-dire qu'il est passé de 45 à moins à peu près 20 degrés. Et également, l'inclinaison a subi une variation d'environ 20 degrés. Et l'étude enfin, de magnétisme ancien ou de champ magnétique ancien, c'est ce qu'on appelle le paléomagnétisme. Et pour accéder à cette étude, donc, on fait appel à des roches volcaniques ou les roches sédimentaires qui ont la capacité d'enregistrer et de mémoriser les directions du champ magnétique terrestre. Et ce moment magnétique où l'aimantation M est liée avec une relation X fois H, dont X est, c'est la susceptibilité magnétique et H ou B, c'est le champ magnétique. Et les minéraux magnétiques dans les roches sédimentaires et volcaniques ont cette faculté de fossiliser la direction du champ magnétique terrestre au moment de leur formation. Par contre, on distingue différents types de démantation. Il y a l'aimantation thermo-rémanente à terre, il y a une aimantation rémanente détritique, aimantation rémanente isotherme et l'aimantation rémanente chimique. En ce qui concerne l'aimantation thermo-rémanente, c'est surtout l'aimantation qu'on observe au niveau des roches volcaniques, métamorphiques, en général les roches éruptives. Cette aimantation s'acquiert après l'éruption du volcan ou de la lave, c'est-à-dire les minéraux magnétiques commencent à fossiliser ou à s'orienter dans le sens du champ ambiant dès que la température est inférieure à la température de curie du minéral. Cette aimantation a une propriété qu'elle est stable dans le temps. Il dépend uniquement de la température. En ce qui concerne l'aimantation rémanente isotherme, comme son terme l'indique, isotherme, c'est-à-dire à température égale, cette aimantation, on peut la retrouver enfin, dans la nature, c'est surtout au niveau des roches volcaniques sous l'effet des foudres. Et cette aimantation, pour nous, enfin, les gens qui travaillent sur le magnétisme des roches, il est facile à détecter enfin, sur le terrain. Mais par contre, on peut aussi créer des aimantations isothermes ou laboratoires. Et on va voir par la suite à quoi ça consiste et à quoi ça sert. Par exemple, là, je vous montre une courbe enfin, d'aimantation isotherme. C'est-à-dire que l'échantillon il est soumis à un champ magnétique croissant et à chaque étape, on mesure l'intensité ou l'aimantation de l'échantillon jusqu'à saturation. Par contre, l'aimantation rémanente chimique, cette aimantation se produit lors de l'altération d'un minéral. C'est le cas souvent de la formation de nouveaux minéraux tels que la goethite ou l'hématite. Et surtout, pour nous, enfin, pour les paléomagnéticiens, c'est notre ennemi numéro un, c'est cette aimantation chimique ou secondaire. Par contre, en ce qui concerne les roches sédimentaires, on parle d'une aimantation rémanente détritique. Ça veut dire que les minéraux magnétiques, là je vous fais un diagramme représentatif, c'est-à-dire là la direction du champ magnétique. Les particules magnétiques, ils sont issus enfin, de l'altération des roches antérieures ou dans l'environnement avoisinant. Dès que les particules se déposent, ils s'orientent, bien sûr, dans le sens du champ ambiant. Une autre phase où une autre couche de minéraux arrive, ils s'orientent dans ce sens, et ainsi de suite. Et les minéraux magnétiques, enfin, dans les roches sédimentaires, commencent à fossiliser enfin, la direction du champ magnétique au moment de la compaction. Tant que le liquide est supérieur, soi-disant, à 30%, c'est-à-dire les particules, ils ont encore la liberté de bouger. Donc, ils se figent dès que la compaction, au moment de la diagénèse, commence. Donc, on sait que, ici, la représentation, enfin, sur la surface de la Terre, l'inclinaison, je vous ai parlé tout à l'heure, l'inclinaison, c'est l'angle entre la direction du vecteur et l'horizontale. Et il y a une relation qui relie l'inclinaison à la latitude, c'est cette relation tangente I est égale à 2 tangente lambda. Lambda, ça veut dire la latitude du site d'observation. Et à partir de là, on peut utiliser cette formule pour déterminer enfin, la dérive ou le déplacement des blocs ou des continents. Ici, un exemple, on mesure un échantillon de basalte, par exemple, prélevé à 42 degrés nord de latitude et 120 degrés est. On a déterminé une inclinaison magnétique de 27 degrés. La latitude magnétique où se trouvait l'échantillon lors de l'acquisition de son aimantation vaut la latitude est égale à 1/2 de l'arc tangente de 27 qui est égal à 15 degrés. Donc, cet échantillon s'est donc déplacé de 27 degrés vers le nord depuis l'acquisition de son aimantation pour atteindre sa position actuelle de 42 degrés. Donc, c'est une des, enfin, c'est-à-dire des utilisations de champs magnétiques, c'est-à-dire pour positionner et pour savoir où déterminer la position des blocs ou des continents à l'époque, et voir aussi le sens et la vitesse de leur déplacement. Et la variation du champ magnétique, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est continuel dans le temps et dans l'espace. Les fluctuations d'origine externe, c'est ce qui affecte ce qu'on appelle la variation circulaire. Elle est due, par exemple, à des tempêtes solaires, à des éruptions solaires qui perturbent la magnétosphère et qui perturbent le champ magnétique terrestre. Et ici, c'est un diagramme qui représente l'intensité des champs magnétiques, c'est-à-dire au moment où les tempêtes solaires ils sont stables, il n'y a pas beaucoup d'éruptions solaires, de composantes X, Y et Z, c'est au niveau de l'intensité des composantes X, Y et Z. Donc, la variation circulaire concerne uniquement les derniers 10 000 ans. Elle est utilisée en archéologie et en archéomagnétisme. Et la variation paléociculaire dans le temps couvre le Pléistocène moyen et supérieur. Et quand il s'agit des variations, c'est-à-dire à long terme, c'est-à-dire au-delà de millions d'années, on parle de la magnétostratigraphie et qui couvre tous les âges géologiques. Donc, les fluctuations d'origine interne sont les excursions géomagnétiques qui ont une durée à peu près de 4000 ans et les inversions géomagnétiques qui ont une durée de plus de 10 000 ans. Ici, la configuration, c'est-à-dire de champ magnétique, au moment quand on parle de polarité normale, quand il est normal, c'est-à-dire c'est comme la configuration actuelle, le vecteur champ ou les lignes champ traversent la Terre de nord vers le sud. Et dans le cas de la configuration inverse, c'est le contraire, que les lignes champ traversent la Terre de sud vers le nord. Et le Brune, le premier en 1960, a remarqué que le champ magnétique terrestre s'est totalement inversé au cours des temps grâce à cette mémoire. Donc, comment ? C'est qu'il a prélevé un bloc de basalte, il l'a désaimanté, il a mesuré son aimantation, il a trouvé que le sens de l'aimantation est contraire à l'aimantation, à la direction du champ actuel. Et également, il a fait des prélèvements au niveau, c'est-à-dire des roches sédimentaires qui sont au-dessous de contacts de basalte. Ils ont la même direction de ces roches sédimentaires et la même que le basalte. Ça veut dire que la terre où le sédiment a été cuit par la chaleur de la lave et au moment de refroidissement, donc il acquiert la même aimantation. Et c'est grâce à cette succession, c'est-à-dire de lave volcanique et grâce à la datation radiométrique, qu'on a commencé à établir les premières échelles géomagnétiques. Ici, l'exemple d'une échelle des 5 premières millions d'années. Au début, on a attribué, c'est-à-dire on a adopté une nomenclature avec les noms des gens célèbres qui ont travaillé sur le magnétisme, tels que Gilbert, Gauss, Matsuyama, Brunet. Après, on a découvert d'autres inversions ou d'autres polarités au sein, par exemple, de périodes longues, tels que Kinya et Mammouth. Par contre, il y a ce qu'on appelle les excursions, par exemple, dans la période brune, qui est la période actuelle, il y a une inversion de courte durée qui s'appelle le champ. Et pour aller plus loin, enfin, pour au-delà de 5 millions d'années, on a utilisé les dorsales océaniques pour établir l'échelle des temps géomagnétiques. Parce qu'enfin, le long de la dorsale, plus on s'éloigne de la dorsale, plus les laves sont anciennes et on a un enregistrement continu presque de toutes les... de direction du champ magnétique terrestre. Et grâce à ces dorsales, par exemple la dorsale atlantique, on a pu établir des échelles géomagnétiques qui peuvent aller jusqu'à 160 millions d'années. Au-delà de 160 millions d'années, les basaltes, ils sont où la croûte océanique est rentrée en subduction. Elle est perdue à cause de phénomènes de subduction. Là, je vous montre uniquement le champ, enfin l'échelle géomagnétique pour la période néogène. Ici, on a les polarités, les âges et également les biozones des foraminifères planctoniques, nanoplancton, etc. Là maintenant, je vous ai parlé un peu du principe de magnétisme ou de géomagnétisme et paléomagnétisme. Là, je vais vous parler enfin de travail de terrain, c'est-à-dire avant d'avoir ces résultats. À la recherche de la direction de l'alimentation remanente primaire. Premièrement, le travail de terrain, il consiste à aller chercher les échantillons sur le terrain. Et l'échantillonnage peut se faire de différentes façons. Dans le cas des roches sédimentaires, enfin des roches indurées, on obtient les carottes directement à l'aide d'un carottier refroidi à l'eau. Là, avant d'extraire les carottes, il faut d'abord les orienter in situ. Une fois récupérées les carottes orientées, maintenant, il faut les découper en échantillons standard. Et dans le cas des roches meubles, comme ici, on utilise soit les boîtes en plastique qu'on oriente directement en place, soit on prélève des blocs dont on fait des repères d'orientation. Et après, enfin, les blocs, une fois récupérés sur le terrain, il faut les préparer au laboratoire pour obtenir les carottes. Et le travail de laboratoire consiste à nettoyer ou à désaimanter l'échantillon. Et là, on a deux types de désaimantation. Comme ici, vous voyez, il s'agit d'un four. C'est-à-dire, on chauffe l'échantillon. Et ce four, il a deux chambres, une chambre de chauffe, une chambre de refroidissement qui est isolée de champ ambiant avec des blindages. Donc, à chaque étape, on chauffe l'échantillon, on mesure son aimantation, soit avec un GR5, c'est-à-dire un magnétomètre rotatif, soit un magnétomètre cryogénique qui est refroidi à l'hélium. Et là, un autre appareil, c'est un appareil de désaimantation par champ alternatif. Enfin, le but est le même, c'est de désaimanter l'échantillon, sauf que des fois, il y a des échantillons qui ont des minéraux, qui contiennent des minéraux qu'on appelle de haute coercitivité, qu'on ne peut pas désaimanter avec le champ alternatif. Et dans ce cas-là, il faut les traiter à la température. Une fois désaimanté l'échantillon, là maintenant, il faut déterminer aussi la nature des minéraux magnétiques. Donc, on utilise ce qu'on appelle Le test de Lowry, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aimantation isotherme. Là, on essaye de saturer l'échantillon en appliquant un champ différentiel. Ça nous donne déjà une idée sur la coercitivité de minéral existant. Dans ce cas-là, par exemple, cet exemple, il s'agit de minéraux de faible coercitivité, parce que presque 90% de saturation, d'aimantation de saturation, est atteinte à peu près à 200 millitesla. Une fois saturé l'échantillon, il faut le désaimanter avec la température, et à partir de là, c'est-à-dire les points d'inflexion indiquent la désaimantation ou la désaimantation d'un minéral. Et à partir de là, on mesure la sexibilité, bien sûr, qui nous donne une idée sur la transformation des minéraux magnétiques. Et à partir de là, c'est-à-dire des deux paramètres de l'expérimentation, l'aimantation isotherme et la désaimantation thermique, on peut déterminer la nature du minéral magnétique. Là, c'est un exemple du diagramme de désaimantation en projection orthogonale. Là, il s'agit d'un échantillon de polarité inverse. Plutôt, cet échantillon, il contient deux aimantations. Une aimantation de direction normale, c'est-à-dire jusqu'à ce point, et une autre aimantation, ce qu'on appelle primaire, qui est de direction inverse. Par contre, cet échantillon, elle est presque rectiligne. Il contient qu'une seule aimantation et qui est de polarité normale. Une fois on a désaimanté, on a interprété tous les échantillons, on les projette sur un stéréogramme, c'est-à-dire les échantillons de polarité inverse et des échantillons de polarité normale. Là maintenant, il faut faire des tests pour savoir si l'aimantation et les primaires ou c'est une aimantation secondaire, par exemple, due à l'altération. Là, il y a différents tests à faire, selon, bien sûr, les conditions de terrain. Il y a ce qu'on appelle le test de conglomérat. C'est on a, enfin, c'est-à-dire l'intercalation des couches conglomératiques dans la série. Là, on peut faire ce test. Et le test d'inversion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, normalement, si la colonne stratigraphique ou la section qu'on a échantillonnée a la même, c'est-à-dire a enregistré la direction du champ magnétique, ça veut dire que la direction des polarités normales est opposée à la direction des polarités inverses. Et là, selon l'angle entre les directions de polarité normale et les polarités inverses, on peut faire un classement, c'est-à-dire de test d'inversion. Et là aussi, on peut également faire ce qu'on appelle le test de pli, c'est-à-dire faire les mesures au niveau des deux flancs d'un pli. Une fois on a remis tout à l'horizontale, voir enfin s'ils ont la même aimantation ou c'est une aimantation post-plissement. Et là maintenant, une fois on a la succession des polarités, on a déterminé les polarités, enfin on a transformé le déclinaison inclinaison en VGP, en pôle virtuel, pour déterminer les polarités. Une fois les polarités sont déterminées, maintenant, il faut passer à une autre étape, c'est-à-dire à faire la corrélation entre la succession des zones de polarité avec l'échelle géomantique. Et là, on a besoin d'un repère chronologique qui est soit biochronologique, en se basant sur le stade d'évolution des fossiles rencontrés, soit radiométrique, qui nous facilite, enfin, pour permettre la corrélation avec l'échelle. Là, je vais vous présenter un exemple qui a été publié, enfin, c'est un article de Pauline Coster, qui a déjà donné sa conférence il y a presque un mois. C'est le résultat, enfin, c'est-à-dire de son mémoire de Master 2 que j'avais dirigé à l'époque au Mexique. C'est un travail qu'on a réalisé sur le bassin de Mimo en Thaïlande. Donc, en Thaïlande, il y a à peu près plus d'une soixantaine de bassins tertiaires qui sont répartis dans tout le pays. Et l'avantage, ou pourquoi ces bassins sont exploités, c'est à cause, enfin, c'est-à-dire leur richesse en lignite qui est utilisée pour la production d'électricité. Là, vous voyez une centrale thermoélectrique, et là, les affleurements enfin, des lignites au niveau du bassin. Là, on va s'intéresser au bassin de Mimo et à notre petit bassin qui s'appelle le bassin de Shengmuan. Le bassin de Shengmuan a livré des restes d'hominoïdes qu'ils ont attribués à Confer le Pithecus shengmuanensis par Scheimann et al. En 2003. Et après la découverte d'une mandibule complète qu'ils ont renommé Coratopithecus shengmuanensis, qui a été découvert dans le plateau des Corates, ils ont rebaptisé ces restes de shengmuan de Coratopithecus shengmuanensis. Et ce primate est considéré comme ancêtre de l'orang-outan actuel. Donc, une étude magnétostratigraphique a été réalisée dans le bassin du Shengmuan par Binami et al., où ils ont corrélé la succession de polarités et ils ont obtenu un âge compris entre 13,8 et 11 millions d'années. Par contre, je vous rappelle, j'avais des difficultés, c'est-à-dire l'échantillonnage n'est pas aussi serré. Il n'est pas aussi... tout dépend de l'affleurement à l'époque. Et par la suite, l'équipe des Japonais, dirigée par Suganuma, ont réalisé une autre étude magnétostratigraphique dans le même bassin et ils ont obtenu un âge de entre 13 et 9,7 millions d'années. Entre le bassin de Shengmuan et le bassin de Mimo, on a trouvé des couches de sinérite qu'on a analysées. On a vu qu'ils ont le même spectre d'éléments en trace. Donc, on a émis une hypothèse que ces sinérites proviennent d'une même éruption volcanique. Là, je vous montre quelques images de bassin de Mimo. Là, on voit le niveau de sinérite altéré, qui est sous le niveau J, parce qu'ils ont nommé le niveau de lignite K, Q, J, etc. Et là, le niveau Q et R. Donc, on a déjà publié un article dans le bassin de Mimo en 2002. Maintenant, on a complété, c'est-à-dire cette étude, par un échantillonnage à la base et au sommet de la coupe. Et on a obtenu cette configuration. Donc, au total, à peu près 15 polarités ont été déterminées dans la section de Mimo et la couche de sinérite correspond au chrome C5AN. Si on prend, c'est-à-dire comme hypothèse que la sinérite du Shengmuan et la sinérite du Mimo sont issues de la même éruption volcanique, donc on voit que l'étude des Japonais, tant bien, enfin, c'est-à-dire le niveau de sinérite, tant bien dans la polarité normale. Et ici également, à MIMO, on a trouvé la même polarité normale. Donc, ce qui nous a permis enfin, de réinterpréter les résultats déjà publiés par l'équipe japonaise. Et pour en conclusion, enfin, pour cette étude de bassin de MIMO et de Shangmuan, que la construction d'une section composite comprenant 15 zones de polarité nous a permis de corréler la séquence de miocène moyen de MIMO avec l'échelle géomagnétique des polarités. Ces résultats suggèrent que la séquence ne serait déposée entre 14,2 et 12,1 millions d'années avec un taux de sédimentation moyen de 21 cm par 1000 ans. Et l'âge des niveaux fossilifères du bassin est donc probablement de 13,2 millions d'années pour le niveau Q, c'est-à-dire le niveau de lignite Q, et autour de 12,7 millions d'années pour le niveau J. Basé sur l'analyse du spectre d'éléments en trace de deux niveaux de sinérite des bassins de MIMO et Shangmuan, nous avons à réinterpréter la magnétostratigraphie de la séquence du Shangmuan. Et d'après cette nouvelle corrélation, l'âge de la lignite qui a livré Coatpiticus shangmuanensis serait comprise entre 12,4 et 12,2 millions d'années, contrairement à l'âge de 12,1 à 10,5 proposé par Suga, Numa et Hall en 2006. Et les niveaux de lignite inférieure auraient un âge compris entre 13 et 12,8 millions d'années et la formation du shangmuan serait déposée entre 13,1 et 12 millions d'années. Et pour conclure, les avantages de la magnétostratigraphie par rapport aux autres méthodes géochronologiques. Prenons cet exemple de Shangmuan et de bassin du MIMO. Ces deux bassins, ils n'ont aucune, c'est-à-dire ils n'ont pas de faune. On n'a pas trouvé la même faune, c'est-à-dire au bassin du MIMO et au bassin de Shangmuan, c'est-à-dire la faune est différente. Donc, on a utilisé la magnétostratigraphie pour faire la corrélation entre les deux et aussi réinterpréter et améliorer les datations du site Coatpiticus. Le signal étudié est synchrone à grande échelle, c'est-à-dire qu'une inversion ne dépend pas de la région géographique. Elle est synchrone à l'échelle de la planète. Donc l'inversion elle n'est pas uniquement locale, mais elle est globale. Une autre résolution, la transition d'une polarité à l'autre, est de quelques milliers d'années uniquement. Et elle est indépendante du faciès, c'est-à-dire on peut l'appliquer sur toutes les roches de même âge. Toutes les roches de même âge ont la même direction de chemin de cycle. Et pour conclure, la magnétostratigraphie est un outil de datation et de corrélation. Il est indispensable à la plupart des études stratigraphiques. Il permet de quantifier la vitesse des processus sédimentaires structuraux ou biologiques, corrélés entre les faunes indépendamment de leur lieu géographique. Un repère chronologique est nécessaire pour corréler les magnétozones à l'échelle géomagnétique de référence. Je vous remercie.